When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Salut les fous du volant, on est ravis de vous accueillir une nouvelle fois pour parler de Formule 1 avec Stéphane Vrignot.
Salut Gilles.
Et avec un invité, alors que les amateurs de Formule 1 qui ont au moins plus de 30 ans vont reconnaître, notamment au niveau de la voix, c'est Pierre Van Vliet qui a été longtemps commentateur de la Formule 1 sur TF1, à l'époque où c'était sur TF1.
Déjà,
ouais. On est ravis de vous recevoir Pierre, bonjour.
C'est un plaisir partagé, salut.
Bonjour,
à tous.
Pierre. Alors maintenant, vous faites plein de choses, Pierre, parce que vous êtes retourné travailler en Belgique. Vous êtes belge, même si vous avez longtemps commenté pour la télévision française. Et vous avez sorti un livre il y a quelques semaines, Ma vie sur les circuits, chez Témoignage City. Ça retrace en gros votre carrière dans l'univers impitoyable de la Formule 1.
Oui, enfin, c'était pas vraiment le but. Moi, j'avais imaginé ça, et d'ailleurs, c'est ce qui ressort en tout cas de la seconde partie du bouquin, comme un tour du monde en 80 circuits, plutôt des témoignages de globe-trotter des circuits, pas seulement en Formule 1 d'ailleurs. Mais bon, l'éditeur m'a demandé quand même de rappeler mon parcours pour justifier, pour que les gens comprennent comment j'étais tombé dans la marmite et comment j'ai eu la chance de faire le tour du monde pendant presque un demi-siècle.
Stéphane, je te laisse l'honneur de la première question.
En fait, moi, quand je lis votre livre, c'est un petit peu la Formule 1. Alors, un petit peu d'avant, c'est les années Ecclestone, finalement. Et puis, vous êtes aussi rentré de plein pied dans l'ère Liberty Media avec ce renouvellement, cette explosion du genre en Formule 1 à partir de 2017. Mais c'est savoureux parce que c'était le temps où certaines choses étaient encore possibles et où elles ne le sont plus aujourd'hui, en particulier les relations entre les journalistes et les pilotes qui étaient assez copains. Et maintenant, il y a presque une méfiance entre ces deux mondes-là.
C'est vrai que c'est la Formule 1 de papa, quelque part. Mais en l'occurrence de papy, puisque Bernie, c'était un peu le parrain, hein, le patriarche. Alors, c'est vrai, mais je crois que c'est une question d'époque et de génération, parce que bon, évidemment, la F1 était beaucoup moins médiatisée ou en tout cas avait beaucoup moins d'enjeux commerciaux il y a 50 ans, puisque moi, mon premier Grand Prix, c'est où j'étais accrédité comme journaliste, c'est en 73 au Paul Ricard, donc c'est vraiment 50 ans. Et effectivement, alors quand on est dans la même génération et qu'on connaît les pilotes déjà peut-être même avant la F1, parce que ça aide, il y a une proximité, il y a même du copinage, enfin, il y a des relations qui sont parfois franchement amicales, et pas seulement les pilotes d'ailleurs, c'est valable pour la communauté, je dirais, du paddock de F1. Et puis, à l'époque, on voyageait différemment, on était ensemble souvent, les hôtels, les restos, les voyages, et du coup, ça rapprochait, on socialisait ensemble. Aujourd'hui, on sait qu'en F1, ça n'est plus vrai, tout ça est très cloisonné, et du coup, les rapports humains ne sont pas les mêmes. Mais bon, c'est un peu l'évolution de la société qui veut ça aussi. Mais je mesure la chance d'avoir vécu cette époque un peu bohème.
Oui, alors souvent, on parle un petit peu de l'âge d'or de la Formule 1. Il y a un épisode que vous avez vécu, vous, dans votre carrière et qui reste vraiment dans les annales, c'est le bras de fer entre Alain Prost et Ayrton Senna. Et alors vous, vous étiez un des seuls à pouvoir finalement franchir le no man's land qui s'était créé entre les deux, parce que c'était vraiment une guerre de tranchées entre les deux. Et vous, vous arriviez finalement à parler aux deux. Alors Alain Prost, on comprend pourquoi. Ayrton Senna, moi j'ai appris en préparant ce podcast que en fait vous parliez portugais et que ça vous a beaucoup aidé.
Et au fond, le portugais, también. Non, c'est vrai que ça a aidé. Et bon, c'est en fait grâce à cette proximité aussi linguistique, ou en tout cas, ça a permis de briser la glace avec Ayrton, surtout tout au début, parce que moi, je l'ai connu, il est venu faire une course de karting un championnat du monde de karting à Nivelles, donc pas très loin de chez moi. Et puis, je l'ai vu en Formule Ford, en Formule Ford 2000, en Formule 3. Donc, quand on connaît les pilotes avant qu'ils soient des stars, on a déjà une forme de complicité ou de confiance qui s'instaure. Avec Alain, c'était déjà la Formule Renault, parce que j'étais auto-hebdo en 76 quand il gagne la Formule Renault. Et donc, voilà, on avait le même âge, on a toujours le même âge. et voilà, on est copains. Et puis, quand il est devenu une vedette en F1, ben, voilà, il est resté un copain. Ayrton, forcément, c'est un personnage un peu plus secret, un peu plus fermé. Mais le fait que je parlais la même langue, ça l'a mis en confiance. Et donc, ça a tissé des liens avant, de nouveau, les projecteurs de la F1 qui ont quand même tendance à biaiser un peu, à transformer un peu les personnalités.
Mais vous étiez quand même sur des œufs un petit peu. Alors, en plus, journaliste brésilien, entre guillemets, avec les Brésiliens, et français avec les Français, vous aviez les deux sons de cloche et la confiance des deux. Et à un moment donné, quand même, quand ça a chauffé, vous étiez le go-between.
J'étais ni français ni brésilien, donc voilà, ça facilitait les choses. Bon, c'est vrai qu'on était quelques-uns, enfin pas beaucoup, à avoir, disons, accès aux deux premiers cercles. Il y a Lionel Froissart un petit peu aussi, qui était fan de Ayrton depuis le karting, puisqu'il était spécialiste du karting. Mais c'est vrai qu'il y a une telle parano qui régnait entre les deux camps dans la période la plus tendue, c'est-à-dire 89-93, grosso modo, que là, effectivement, c'était très difficile d'établir des passerelles ou de justifier le fait que, voilà, on ne prenait pas parti l'un pour l'autre. Parce qu'eux considéraient vraiment que si on n'était pas avec eux, on était contre, quoi. C'était un peu la parano.
Mais alors, justement, j'en viens même, le premier épisode, c'est en 84, tout de suite, c'est la première saison d'Ayrton Senna qui termine deuxième du Grand Prix de Monaco parce que Jacques Hicks, donc pilote belge, légende belge des 24 heures du Mans, a stoppé le Grand Prix avant la fin.
Qui était directeur de course
et surtout pilote Porsche en endurance. Et là, on fait le lien tout de suite. Il y a le bruit qui court. Bah, il aurait arrêté le Grand Prix de Monaco pour permettre à Alain Prost, qui était sur une McLaren motorisée par Porsche, de gagner. Et là, ben vous allez voir Ayrton Senna pour faire redescendre la pression et expliquer que ce n'était pas du tout dans l'intention de Jacques Hicks. Et vous faites là déjà une première médiation, on va dire.
Ouais, je fais un peu le casque bleu.
L'expression que j'allais employer.
Même si Jackie avait un très beau casque bleu. Mais c'est vrai que ça a été mal interprété, cette décision de Jacques Hicks. A fortiori parce qu'il arrêtait la course en raison de la pluie, parce que la piste devenait impraticable. Alors que Jackie était connu pour être le rain master, le maître de la pluie. Donc, ça pouvait sonner faux auprès de certains observateurs. Mais la vérité, c'est que Monaco, quand c'est vraiment détrempé comme ça, c'est inconduisible. Donc, Jackie a aussi la responsabilité de l'Automobile Club de Monaco d'éviter des accidents, parce qu'on sait qu'à Monaco, le jour où il y a un accident vraiment sérieux, ça marquera sans doute la fin du Grand Prix. Donc, Jackie avait cette responsabilité-là sur les épaules. Et alors, le lien avec Porsche, alors ça, vraiment, là, on sombre dans le complotisme primaire, parce que d'abord, Porsche ne communiquait pas là-dessus. Porsche était fournisseur du moteur qui était financé par Technique d'avant-garde, la boîte de Mansour Roger. Et voilà, donc Jackie a vraiment arrêté la course sans savoir qui était en tête et qui était deuxième, parce que dans ce tour-là, Ayrton aurait pu passer devant. Alors, c'est vrai qu'au moment où il met le drapeau rouge, on sait que le règlement disait qu'on arrêtait le classement en tour précédent, mais il ne l'a pas fait parce que Ayrton remontait. Et puis, on pourrait même, tant qu'à sombrer dans le complotisme, dire oui, mais il y avait aussi Stéphane Bailoff qui était en train de ramarrer tous les deux. Et si la course avait continué, qui sait si ce n'est pas Bailoff qui aurait gagné. Or, Bailoff était l'équipier, certes, mais aussi le rival de Jackie chez Porsche en endurance. Voilà, donc on peut partir dans n'importe quel sens. Ça n'a pas de sens. Et voilà. Et alors, Ayrton, c'est vrai que le lendemain du Grand Prix, je raconte ça dans le bouquin, je tombe par hasard sur lui à l'aéroport et moi, j'étais avec Jackie. Et donc, il ne s'était pas calculé, quoi, encore. Donc, il y a eu une poignée de main assez froide, je reconnais. Mais après, j'ai revu Ayrton deux, trois semaines après, et j'ai argumenté, j'ai expliqué la position de Jackie. Et ce qui est amusant, c'est que des années plus tard, je crois que c'est 93, la dernière victoire d'Ayrton à Monaco, on est à la remise des prix. Ayrton est évidemment à la table d'honneur avec le prince. et avec Jackie. Et ce jour-là, Ayrton a dit à Jackie, avec le recul, je reconnais que tu avais raison d'avoir arrêté la course en 84. Donc voilà, tout est bien qui finit bien.
C'est une histoire qu'on ne connaissait pas.
Non, voilà. C'est pour ça qu'on vous reçoit aussi, Pierre Van Vliet. C'est justement pour ce genre de petites choses.
Oui, des anecdotes et puis des histoires vécues. C'est ça que je voulais mettre dans le livre et pas raconter bêtement, de façon chronologique, ma vie, mon œuvre. Et je trouve que ce qui est plus intéressant, c'est l'aspect humain et les histoires, quoi. Donc, il y a des histoires auxquelles j'ai pris part, mais il y a aussi plein d'anecdotes dont j'ai été le spectateur ou pas vraiment l'acteur, mais en étant sur place, donc en ayant vécu quand même et en pouvant contextualiser tout ça. Et je pense que c'est plus amusant. Et je voulais le faire sur 80 circuits parce que le titre que j'avais choisi pour le livre, c'était « Le tour du monde en 80 circuits ». Il n'a pas été validé par l'éditeur, mais bon, chacun son métier, donc je m'incline sportivement. Et donc, ça permet de visiter 80 circuits, parfois d'ailleurs improbables, hein, il n'y a pas tous les circuits du monde, loin de là. Et ça, justement, sans chronologie, puisque c'est l'ordre alphabétique qui est complètement aléatoire. Donc, ça permet de passer d'une époque à l'autre, d'un circuit à l'autre, forcément d'un pays à l'autre, d'une catégorie à l'autre. Voilà. Donc, j'espère que le livre n'est pas ennuyeux à lire, du coup, et on peut même faire son shopping et prendre un circuit de temps en temps selon ses envies.
Est-ce que, là vous parliez, on parlait du duel entre Alain Prost et Ayrton Senna, est-ce que la dernière fois qu'il y a eu un duel avec une telle intensité, c'était finalement Max Verstappen face à Lewis Hamilton, est-ce que vous avez retrouvé des ingrédients de ce que vous aviez connu à l'époque entre le Brésilien et le Français ?
Alors, la différence entre Hamilton et Verstappen, d'abord, c'est qu'ils sont dans des équipes différentes, ils n'ont pas été équipiers au sein de la même équipe, parce que ce qui était unique dans les annales, c'est le fait qu'on est Alain et Ayrton à armes égales, quoi, vraiment. Et là, il n'y avait pas de discussion possible. Alors, même s'il y a eu, certains disaient que Honda favorisait Ayrton, etc. Enfin bon. Mais voilà, ça, c'est quand même unique, si ce n'est dans la période récente, entre Lewis Hamilton et Nico Rosberg, quand même. Il y a eu deux ou trois saisons où c'était peut-être pas aussi intense comme duel que Prost-Senna, mais 2016 quand même,
oui,
ça a été tendu entre eux. Et pour Nico, ça a été tellement, tellement épuisant nerveusement et mentalement qu'il a préféré jeter l'éponge après. Donc voilà, chaque cas est singulier. Hamilton, Verstappen, c'est pas la même équipe, même si Ayrton et Alain n'ont pas été toujours dans la même équipe non plus. Mais aussi, ce n'est pas la même génération. Il y a vraiment un gap de génération. Donc, ce n'est pas vraiment comparable, je pense.
À la première étincelle, c'était Imola 89, refus d'une consigne, Ayrton Senna qui double finalement Prost au premier virage. Et là, tout s'enclenche et c'est le début de la guerre. Et là, vous vivez ça entre les deux et vous allez voir l'un et l'autre pour essayer d'apaiser les tensions.
Oui, enfin, je n'étais pas vraiment casque bleu à ce moment-là, mais c'est vrai que en fait, c'était le championnat du monde de la mauvaise foi, parce que ils avaient donc convenu, ils avaient un deal entre eux, parce qu'ils étaient tellement dominants par rapport à la concurrence, de ne pas prendre de risque dans le premier tour. Et celui qui partait en tête virait en tête au premier virage et finissait le premier tour en tête. Après, ils pouvaient vraiment rentrer en compétition. Et donc à Imola ce jour-là, bon, ben c'est Alain qui part en tête. Premier tour se passe. Bon, la course est arrêtée au drapeau rouge, où il y a un drapeau rouge, je crois, si je me trompe.
Sur l'accident
plus.
De Berger.
Voilà, l'accident de Berger, évidemment, à Tamburello. Et donc, ils reviennent sur la grille et on repart. Mais c'était l'accident de Gerhard, c'est au troisième tour, quelque chose comme ça. Donc, on repart pour le quatrième tour. Et là, quand je vous parle de mauvaise foi, c'est Ayrton. Après, il dit, mais le deal, ça marchait pour le premier tour, pas pour le quatrième. Donc, vous imaginez qu'Alain avait les boules. Il a fallu que Ron Dennis intervienne. Hein, ils se sont retrouvés parler à Pembrey à une séance d'essai la semaine suivante ou quelques jours après. Et c'est Joe Ramirez qui faisait le pompier entre les deux. Et Ron a dû venir jusque ce petit circuit au fin fond du Pays de Galles. Il a dû se déplacer pour arrondir les angles. Et ça n'a pas vraiment marché, comme chacun sait. Mais parce que la presse, justement, joue un rôle aussi parfois de pompier pyromane, hein, parce qu'effectivement, ça mettait
vendre.
Parfois de l'huile sur le feu. Par exemple, après l'incident de Pembrey, où Ayrton avait été contraint de s'excuser, et il avait vraiment vraiment les boules. Il y avait de l'émotion, il y avait de la tension. Et Alain a raconté ça, alors qu'ils avaient convenu de n'en parler à personne. Et Alain a raconté ça à notre ami Johnny Reeves de l'équipe, qui en a fait un papier tout à fait digne, hein, et décent. Mais Ayrton l'a très mal pris. Parce qu'évidemment, le clan adverse répéter ce qui se passait dans l'autre clan, etc. Donc ça prenait parfois des proportions un peu dingues. Et Ayrton avait fait le blacklister tous les journalistes français. Donc hein, il voulait pas leur en parler. Donc moi j'ai mis plusieurs semaines pour le convaincre quand même de me donner sa version d'expliquer voilà de qu'on puisse comprendre exactement son point de vue. Et voilà, ça a permis quand même, je pense, d'un tout petit peu nuancer tout ça.
À l'époque aussi, vous mettez le pied à l'étrier, enfin vous permettez à Thierry Boutsen d'entrer en Formule 1 en l'aidant, lui filant des coups de main, en trouvant quelques sponsors. Là aussi, ça c'est une époque révolue. Et on se demandait avec Gilles, mais c'était l'époque bénie aussi des jeunes espoirs belges qui ont fait carrière après. Et on a l'impression que il y en a moins aujourd'hui. Pourquoi, selon vous, on a moins de Bertrand Gachot, de gens comme ça qui sont capables de gagner les 24 heures du Mans.
Bien sûr. Alors bon, Bertrand, il n'est pas vraiment belge. C'est le seul Français qui parle avec l'accent belge, je vous l'accorde.
C'est pour être bien vu.
C'est vrai que j'ai accompagné Thierry et Bertrand dans leur parcours et quelques autres. Hein. Et à l'époque, c'est vrai aussi qu'on pouvait fédérer des énergies et des partenaires pour les aider, parce qu'on ne parlait pas non plus de millions et de millions de dollars comme aujourd'hui. Aujourd'hui, s'il n'y a pas une vraie filière institutionnalisée par un constructeur ou un sponsor, vous n'avez quasiment aucune chance d'y arriver. Donc c'est vraiment à partir du karting qu'on doit se faire remarquer, et on n'a pas le droit à l'erreur à chaque étape de la progression en monoplace. L'exemple le plus récent en Belgique, c'est Stoffel Vandoorne, hein, qui a gagné en karting, qui a été champion en Formule Renault, qui est passé en GP2 à l'époque, qui a été champion en GP2, qui a quand même dû faire une année de purgatoire au Japon en Super Formula, puis qui a été promu chez McLaren, mais malheureusement au pire moment
Oui, clairement.
de McLaren, et quand même avec Fernando Alonso en face. Donc il a dégusté, le pauvre Stoffel, et voilà. Et en F1, on n'a pas deux chances, quoi. Généralement, c'est rare qu'on repêche un pilote. Heureusement, voilà, il est bien retombé sur ses pattes avec la Formule I chez Mercedes, et puis maintenant même en endurance. Donc, mais c'est vrai qu'en bon, c'est un petit pays, c'est pas un pays où il y a des constructeurs ou des grandes multinationales. Donc c'est vrai que statistiquement, il y a peut-être moins de candidats pilotes ou d'espoirs aujourd'hui qu'à une certaine époque, parce que dans les années 50, 60, il y avait énormément de pilotes belges qui brillaient sur la scène internationale en général, que ce soit en Formule 1 ou en endurance, parce que l'endurance à l'époque avait au moins autant d'importance que les Grands Prix.
La Belgique a quand même laissé échapper, entre guillemets, je pèse mes mots hein, pour pas avoir
On
d'ennui,
va venir.
a laissé échapper une pépite parce que Max Verstappen, on sonne l'hymne néerlandais quand il gagne, il a le drapeau néerlandais, mais il a moitié belge, sa maman, elle est belge. Comment vous avez fait pour le laisser partir?
Alors, il est à moitié belge, mais c'est quand même un peu fake, dans le sens où alors il est né en Belgique, c'est vrai. Sa maman est belge, Sophie Kumpen, c'est vrai. Mais les parents se sont séparés quand il était très jeune. Son père, Jos, alors il est resté vivre avec sa mère pendant sa scolarité, mais il n'a pas été à l'école très longtemps. Son père, Jos, l'a mis dans un kart dès l'âge de 3 ou 4 ans. Et c'est son père vraiment qui a fait son cursus dans la course. Et Max, moi je parle néerlandais, c'est-à-dire flamand en l'occurrence. Max, il parle néerlandais avec l'accent néerlandais. C'est un Hollandais, c'est pas un Belge, vraiment pas. Mais bon, c'est vrai qu'on peut jouer sur les mots et qu'il aurait pu au moins avoir la double nationalité, ou il aurait pu prendre une licence belge à une
Oui,
époque.
oui. Et c'est ça, parce qu'il y en a qui changent de nationalité en cours de route. Rosberg a commencé sa carrière en tant que Finlandais. Et puis, dans sa deuxième année de Formule 3, je crois, il est passé
Son pavillon
allemand.
allemand,
Voilà. Ou alors, il pourrait gagner un Grand Prix pour la Belgique, un Grand Prix pour les Pays-Bas. On pourrait au
ouais.
moins vous mettre d'accord. Mais
Mais
bon, il a choisi les
Nico
Pays-Bas.
Rosberg, il est plus monégasque que
Bien sûr.
finlandais ou allemand. Donc,
Il y en a
il aurait
beaucoup qui
pu.
sont comme ça.
Voilà. Non, mais non, lui, vraiment, il est né en Allemagne, certes, mais il a vécu à Monaco toute sa vie. Il a été scolarisé à Monaco. Il parle français comme vous et moi. Enfin, c'est un copier-coller de Charles Leclerc, enfin, je caricature, mais il aurait pu prendre une licence monégasque sans que ce soit scandaleux. Mais bon, les nationalités, le nationalisme,
oui,
toujours s'en méfier.
Exactement. Ouais. C'est quoi qu'il arrive, un grand champion, et c'est le fils donc de Jos Verstappen, évidemment, que vous avez connu en tant que pilote. On nous dit que c'était un papa autoritaire avec Max. Vous devinez dans les qualités de Max aujourd'hui, finalement, le fruit de la, je vais employer le mot, de la dureté du papa avec son fiston?
Alors, la dureté du papa, sans doute. Moi, je n'ai pas assisté à ça parce que je n'ai pas vécu leurs années de karting. Et à peine il a mis son cul dans une Formule Renault que tout de suite... Toto Wolff et Helmut Marko se sont précipités dessus. et on connaît la suite. Maintenant, Jos Verstappen, je l'ai bien connu parce que c'était aussi ma génération et que voilà, on avait une certaine proximité malgré tout. Je connaissais très bien son manager, Hugh Brotengater, qui avait couru également auparavant. Et Jos, il avait cette... Oui, cette exigence, mais aussi cette confiance en lui. Hein, il était très, très sûr de lui, parfois peut-être un peu arrogant, ce qu'on peut reprocher à Max dans certains cas. Mais je voudrais insister sur la dimension génétique du talent de Max, parce que certes, il y a Jos Verstappen, le père, mais il y a Sophie, la mère. Sophie a été championne d'Europe de karting. Sophie, elle battait les mecs en karting. Elle était vraiment hyper douée. Et elle n'a pas fait carrière automobile parce que... Voilà, la famille n'était pas tout à fait encline à ça. Et puis, elle est tombée assez vite amoureuse de Jos. Donc, ils ont eu un enfant donc assez rapidement aussi. Et ceci explique cela.
Max Verstappen et son entourage sont quand même assez forts en termes de business. Parce que nous, personnellement, on ne connaissait pas Air Max. On ne l'a jamais pris. Est-ce que vous avez pris Air Max? Expliquez-nous en quoi ça consiste.
Je croyais que c'était des baskets, moi.
Alors, Air Max, il y a deux versions d'Air Max. Il y a une version Air Max où, effectivement, ils frettent des charters et remplissent les avions de supporters, de fans, de membres du fan club. Et ils sont plusieurs dizaines de milliers, hein, les membres du fan club. Donc, quand vous voyez les tribunes pleines au Red Bull Ring, mais aussi sur d'autres grands prix, y compris hors d'Europe, hein,
aux États-Unis,
il y a des agents de voyage spécialisés qui sont dans le business Verstappen et qui ont un contrat d'exclusivité d'ailleurs pour exploiter ce filon-là. Donc ça, c'est Max Air, j'ai envie de dire, parce que c'est vraiment au maximum que c'est exploité. Et puis il y a Air Max, ça c'est l'avion perso de Max Verstappen, qui se pose plutôt à Nice qu'à Schiphol et qui emmène Max sur les Grands Prix en Europe, mais même hors d'Europe, parce que voilà, c'est un jet... transatlantique, parce que quand même, il faut aller rendre visite de temps en temps à la belle famille.
Qui est au Brésil.
Et donc, dans Air Max, il y a plein de pilotes qui résident à Monaco et qui prennent l'avion avec Max pour aller sur les Grands Prix, parce que c'est quand même très pratique. Alors bon, ça dépend évidemment des affinités des uns et des autres. Hein. Je ne prétends pas que Charles Leclerc prend Air Max toutes les semaines, mais il y en a plusieurs qui le font.
Il y en a 7-8.
Moi, j'ai vécu ça à une autre époque avec Boutsen Airlines, comme on appelait ça entre nous, et où Thierry embarquait la moitié du paddock dans son jet. Et donc, une anecdote que je raconte, que je vous livre rapidement dans le bouquin, c'est le Grand Prix de France à Magny-Cours en 91, je crois, où il y avait la grève des chauffeurs routiers donc, qui bloquaient les autoroutes, etc. Donc, tout le monde voulait y aller en avion. Et donc, on débordait dans l'avion. Je crois qu'on était 10 ou 11 dans un avion qui, officiellement, était à 10. Donc, moi, je devais être passager clandestin assis sur les chiottes. Et il y avait donc la moitié du paddock dans l'avion. Et je me souviens en vol que Ricardo, pas très, à un moment, dit à Thierry, « Thierry, fais pas le con, hein, plante pas le zinc, sinon Mansell est champion du monde. » Il y avait même Ayrton Senna dans l'avion. C'est pour ça que je vous le signale. Et Ricardo était l'équipier de Mansell, évidemment.
Ouais, on aimerait bien connaître les passagers emportés à l'aller par Air Max sur un Grand Prix, parce qu'il y en a peut-être qui se...
Qui loupent l'avion au retour.
Qui se sont mal comportés, tout à fait. Il y en a
mais c'est vrai que certaines fois, on n'a pas les mêmes à l'aller et au retour.
C'est sûr.
Je me souviens à Magny-Cours 92, je crois. Il y a une altercation entre Senna et Schumacher à l'épingle, à Adélaïde, etc.
Schumacher le sort tout de suite au départ.
Voilà. Et donc Senna est furieux, il part sans nous, enfin, il trouve un autre plan. Et Michael vient nous voir en disant « Est-ce que je peux rentrer avec vous à Monaco ?» Et donc, on a eu Michael et Corinna dans l'avion du retour, alors qu'on avait Ayrton à l'aller.
Bah ça n'arrive plus aujourd'hui.
Ouais. Non, effectivement.
Et puis alors, Max Verstappen, c'est quelqu'un qui utilise à fond là, le système, on va dire. Il en fait partie, il est même un élément moteur, on va dire. Mais il s'est quand même préoccupé de l'évolution, des rythmes en Formule 1. Il dit « Il y a beaucoup de courses ». On a alourdi les formats avec des courses sprint comme ce week-end à Spa. Et je commence à en avoir gentiment marre. Il ne dit pas ça comme ça, mais c'est pour un petit peu résumer. J'ai un contrat jusqu'en 2028, mais je ne sais même pas si j'irai jusqu'au bout. Mais il y a quelques jours, il a fait une confidence en disant « Mais quel pilote ne rêve pas de piloter pour Ferrari ?» Ça, c'est une réflexion un petit peu ouverte, mais il ajoute quand même « J'aimerais aussi disputer les 24 heures du Mans ». Alors là, on sait que maintenant, c'est possible d'avoir un package, théoriquement, F1, 24 heures du Mans, assez attractif chez Ferrari. Est-ce que vous le sentez capable de tout planter chez Red Bull pour aller chez Ferrari, sachant que son entourage, Raymond Vermeulen, son père, Jos Verstappen, ont déjà dit qu'il n'était pas Mercedes compatible. Est-ce qu'il serait Ferrari compatible ?
Alors franchement, moi, j'y crois pas du tout, même si l'attraction de Ferrari, elle est fatale dans toutes les époques. Si l'occasion se présente un jour et que les planètes s'alignent, évidemment, on se souvient de Michael Schumacher, c'est un bon exemple. Avec Benetton, il gagnait, il aurait pu continuer à gagner avec Benetton, ou McLaren, Mercedes, tu faisais un pont d'or, il aurait été champion du monde avec McLaren et Mercedes. Mais le fait d'aller chez Ferrari et de faire gagner Ferrari, alors que Ferrari ne gagnait plus depuis un certain temps, de montrer sa valeur ajoutée en rouge, voilà, c'est ce que Max pourrait prétendre aujourd'hui, puisque chez Ferrari, ils n'y arrivent pas vraiment, même si Max est bien placé pour savoir que Charles est aussi capable que lui de gagner, puisqu'ils se sont quand même croisés le fer assez souvent, pas seulement en F1. Maintenant, le fantasme de se dire on peut faire la F1 et l'endurance en même temps, sous prétexte que Ferrari est présent sur les deux fronts, moi, je n'achète pas ça du tout. C'est juste pas possible par rapport, justement, Max le souligne, par rapport à l'agenda surchargé des pilotes, parce qu'il n'y a pas que... Déjà, il va y avoir 24 Grands Prix, donc c'est quand même très lourd. Et sur les 24 Grands Prix, il y a quand même les deux tiers qui sont hors d'Europe, donc c'est quand même des longs voyages, des périodes d'adaptation, etc., etc. Il y a énormément d'argent et énormément de moyens qui déferlent sur la F1. Ça veut dire quand même pour les pilotes des journées de promotion, de la pub. Enfin, je veux dire, ils se prélassent pas entre les Grands Prix, même s'il y a moins d'essais privés qu'à une époque, mais enfin, ils sont quand même au four et au moulin. Et quand on a des Grands Prix qui s'enchaînent semaine après semaine, je veux dire, ils n'ont vraiment pas le temps de souffler. Et puis, il y a aussi toute la préparation physique et la préparation technique, le fait d'aller quand même régulièrement à l'usine, valider sur le simulateur, etc., même s'ils ont des pilotes de développement pour ça, mais ils y vont quand même eux-mêmes, souvent en amont de chaque Grand Prix pour préparer le Grand Prix suivant. Donc voilà, vouloir faire l'endurance en parallèle, c'est juste pas possible, c'est juste physiquement pas possible. Alors évidemment, c'est tentant, il y a un côté chevaleresque, c'est romantique presque.
Exactement, c'est le mot que j'allais employer chez Alpine
aussi, on pourrait imaginer la F1 et l'endurance, c'est Michel Vaillant quoi, en bleu à ce moment-là. mais bon, voilà, ça c'était vrai dans les BD, mais ça n'est plus vrai aujourd'hui, c'est plus possible. Alors on peut le regretter sans doute, mais quand même le fait que la F1 explose avec le phénomène Netflix et avec l'approche américaine quand même du développement du business. On n'a encore rien vu. Attendez Las Vegas, vous n'allez pas être déçus.
Et c'est un spécialiste de l'IndyCar qui nous dit ça.
Absolument, absolument. Et à côté de ça, l'endurance atteint une nouvelle apogée aussi, comme on n'en a plus vu depuis des décennies, avec une douzaine de constructeurs. Donc l'un n'empêche pas l'autre. Parce qu'à une époque, quand même, où Bernie et Max Mosley, Bernie Ecclestone, Max Mosley, avaient tendance à savonner la planche des autres catégories pour ne pas faire de l'ombre à la F1 et pour attirer à soi non seulement tous les constructeurs, mais donc tout l'argent, toutes les télés, etc., etc. Aujourd'hui, on constate que le sport automobile peut avoir plusieurs vitrines et c'est tant mieux.
On va reparler d'une époque aussi, pas si lointaine que ça, mais c'était une époque où Ferrari dominait. Et je voudrais revenir sur le Grand Prix d'Autriche 2002. C'est Rubens Barrichello qui est en tête, qui se dirige vers la victoire, devant Michael Schumacher. Et la Scuderia Ferrari, Jean Todt, le patron de la Scuderia, décide finalement de dire à Rubens Barrichello de laisser passer Michael Schumacher. C'est un incident qui a laissé beaucoup de traces. On va parler de votre cas personnel, évidemment, Pierre, mais c'est un des exemples où il y a eu vraiment une réaction épidermique du public. Et l'histoire dit même qu'en salle de presse, pour la conférence de presse après, les journalistes ont sifflé les pilotes à leur arrivée à la salle de presse, ce que moi, personnellement, j'ai jamais vécu. Alors, j'ai pas fait autant de Grand Prix que vous. Ça a été un moment vraiment... particulier, spécial, moche.
Oui, ça a été pour moi, ça a été un peu un point de bascule, mais pour d'autres raisons. Mais ça a été choquant. Et donc le public, parce que Rubens a fait la pole, Rubens a dominé tout le Grand Prix, et vraiment devoir laisser la victoire alors que Michael a une large avance au championnat, que Ferrari a encore plus d'avance au championnat constructeur, vraiment c'était un peu du vol à main armée. Je parle moralement, hein, en termes d'éthique sportive. Alors bon, c'est clair qu'on s'en éloigne de nos jours et que c'est devenu plus de la réelle politique. Mais Rubens venait de re-signer un contrat avec Ferrari, donc la pression a été vraiment très très forte sur lui. Rubens en parle très bien, hein. Moi j'en ai longuement parlé avec lui, en portugais, bien sûr. Et Rubens s'en parle très bien et il explique les 8 derniers tours de la course. Pendant 8 tours à la radio, tout le temps, d'abord son ingénieur, et puis ça a été Ross, et puis finalement ça a été Jean. Et il a failli enfreindre l'ordre. Et puis voilà, il a craqué parce que vraiment, à force, quand Jean est arrivé à la radio, je pense que c'est à un tour de la fin, donc l'avant-dernier tour, là, il s'est dit, bon, et Jean, semble-t-il, a clairement menacé non seulement le statut futur de Rubens, mais même le contrat. Alors bon, on ne connaît pas exactement chaque virgule du contrat, mais c'est vous dire à quel point ils étaient loin dans leur... dans une forme de parano quand même, en tout cas dans leur tour d'ivoire Ferrari, que ce soit Jean et Ross Brawn et quelques autres, et tellement obnubilés par le résultat et par la performance, par le fait de ne rien lâcher et d'assurer à tout prix le titre à Michael le plus vite possible, le plus tôt possible, au-delà de toute incertitude du sport. Il y a une forme de pathologique malgré tout, je pense, dans cette posture, et Jean m'en a voulu parce que j'ai un peu mis le doigt où ça fait mal à l'époque, pas seulement en direct, mais par la suite. Mais c'est vrai que la réaction du public, d'abord, a été vraiment impressionnante. Je me souviens que c'est Jacques Lafitte qui, pendant la page de pub entre l'arrivée et le podium, est allé faire un besoin naturel. Il est revenu en me disant « C'est dingue, ils sont le pouce baissé, ils piétinent leur casquette Schumacher. » Enfin, je n'ai jamais vu ça, un truc de dingue. Et effectivement, sur le podium, on voit la gêne de Michael lui-même, le chancelier d'Autriche, là, etc. Les drapeaux qui ne sont pas à leur place, qui est premier, qui est deuxième. Michael qui amène Rubens sur la première marche. Enfin, c'est quand même surréaliste. Et en salle de presse, absolument, j'ai été témoin de ça, ils arrivent sous les huées de 300 journalistes. C'est du jamais vu.
Et alors, il se dit que cet incident vous a valu votre place de commentateur de la Formule 1. Est-ce que c'est vrai, ça, ou pas? Il y a prescription ou pas?
Alors, on peut considérer que c'est en partie vrai, mais je l'explique en long et en large dans le livre, parce qu'on me pose tout le temps la question, oui. Depuis 20 ans. La vérité, quand même, c'est que TF1 a été exemplaire dans la défense, pas seulement de moi, de Jacques aussi, parce que Jacques Lafitte était autant visé par Jean Todt que moi. Et comme on n'avait pas commis de faute professionnelle, parce qu'il suffisait d'écouter ce qui se passait dans les cabines voisines ou de lire l'équipe le lundi ou Auto-Hebdo le jeudi, etc., il y avait unanimité sur la question, sur le sujet. Mais bon, Jean nous a pris en grippe, alors il y avait déjà un peu de... Bon, j'avais pas tendance à cirer les pompes de Jean, parce que c'est pas mon style. Entre Jacques et Jean, il y avait un petit passif qui remontait à des années auparavant. Bon, rien de grave, hein, mais ça a joué un rôle forcément dans le fait que Jean n'a pas lâché son os et il a mis une pression intense. Donc, on n'avait plus accès à Ferrari, on pouvait plus interviewer les pilotes Ferrari ou les représentants de Ferrari. On était blacklisté chez eux, quoi. Alors, Étienne Mougeot, par exemple, qui était le patron de TF1, à un moment, il m'a convoqué en disant, bon, écoutez, Van Vliet, débrouillez-vous, mais vous fâchez pas. On est un directeur sportif français chez Ferrari. Il n'y a plus de pilote français, il n'y a plus d'écurie français. Voilà. Débrouillez-vous pour faire la paix et voilà, et pour que les choses rentrent dans l'ordre. Alors, on a fait ce qu'on pouvait. Moi, je me suis excusé, plus ou moins personnellement, directement ou publiquement pour atténuer le côté un peu, peut-être un peu agressif de ma remarque, hein. J'avais dit que il y a des moments où on est honteux d'être français,
On a
voilà.
même honte, peut-être, que le directeur sportif de la Scuderia
Voilà.
soit français dans ces moments-là.
Voilà. Et
C'était rude, hein, mais
vu que
c'était
moi
à
je
la
suis pas
hauteur de la.
français.
Voilà.
Oui, mais vu que moi je suis pas français, voilà, ça pouvait être un peu mal interprété. Bref, j'ai fait ce qu'il fallait, j'ai mis de l'eau dans mon vin, mais bon, Jean n'a rien voulu entendre. Et là, honnêtement, la tension, la pression, l'ambiance était plombée. Enfin, c'était pas agréable. Moi, ça faisait 30 ans que je faisais les Grands Prix, ça faisait 15 ans que je le faisais sur TF1, et honnêtement, ça faisait quelques mois ou un an ou deux peut-être déjà que arriver sur le circuit le jeudi en sachant déjà qui va être premier et deuxième, c'est moins motivant comme quand on est journaliste, vous savez ça. Et donc voilà, rester enthousiaste ou rester capable de maintenir l'intérêt auprès du téléspectateur alors que la course est relativement pliée avant qu'elle ne commence. Voilà, je commençais à être un peu lassé de ça. Alors, je ne dis pas que j'avais fait le tour parce que c'est prétentieux, mais il se fait aussi que dans ma vie personnelle, certaines choses se sont passées à ce moment-là, comme souvent dans la vie, hein,
Ouais.
tout se croise, que j'ai eu une opportunité de travailler avec quelqu'un de très brillant, John Gossens, qui était nommé président du Royal Automobile Club en Belgique et qui allait devenir président de la FIA et qui m'a demandé de l'accompagner dans ce parcours-là. Et donc, pour moi, c'était une opportunité, voilà, de prendre un tournant dans ma carrière, de peut-être moins voyager. J'avais des jeunes enfants. Si je voulais les voir grandir, c'était pas plus mal d'un petit peu ranger ma valise. Voilà. Donc, étant donné ce contexte, moi, j'ai pu aller voir TF1 en leur disant, bon, je sais que Jean continue à... Ils faisaient pression pour vous dire, ils faisaient des chantages chez TF1 Publicité pour dire tous les budgets du groupe Fiat, plus jamais, etc.,
Ouais.
etc. C'est complètement disproportionné aussi, hein, par rapport à l'incident quand même. Mais bon, c'est vous dire à quel point il était revanchard et vraiment avec de la rancœur. Et il souffre de ça. Je veux pas dire que je compatis, hein, on va pas exagérer, mais c'est quelqu'un qui est dans la souffrance et le fait de pas contrôler ou de pas être en mesure de délivrer le résultat qu'il s'est promis. On connaît le passé au Paris-Dakar ou en endurance, c'est pareil. Et donc, bref, to make a long story short, j'ai été voir la DRH à TF1. J'ai négocié le fait que je parte puisque ça arrangeait tout le monde, ce qui m'a valu un petit parachute, voilà, pas spécialement doré, mais enfin, un parachute qui permet quand même d'atterrir en douceur.
C'est ça.
Et ça m'a permis
De faire autre chose.
d'embarquer dans une seconde carrière quelque part, même si elle n'a pas exactement suivi le chemin que j'avais imaginé avec mon ami John, mais bon, mais qui m'a quand même beaucoup enrichi professionnellement et humainement par la suite.
Oui, parce que ce qu'il faut dire, c'est que c'était la sixième course de la saison, et là, c'était un peu too much. On aurait compris, au bout de trois ou quatre courses, à la fin de la saison, les points sont précieux. On peut donner une consigne, c'est naturel. Là, c'était quand même un
Bien
excès
sûr.
de réalisme. Sur le principe, tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. Mais à partir du moment où
On pouvait avoir aussi d'autres patrons d'équipe qui se réservaient le droit d'inverser des positions au dernier moment. Bon, on a un résultat, on n'y comprend plus rien. On voit des choses sur la piste et puis on a un résultat complètement différent. Ça veut dire que ça ne sert à rien d'être spectateur sur un circuit. Et,
c'est surtout la manière. Voilà, c'est surtout la manière dont ça avait été géré ou pas géré, justement, et où la communication. Ils n'ont pas du tout imaginé que ça allait créer un scandale, hein, que ça allait faire un tollé. Ils étaient dans leur tour d'ivoire. Ils ont été complètement surpris, Michael le premier, en voyant la réaction des gens. Et quand je dis des gens, c'est le spectateur lambda, y compris. Et alors moi, je suis d'accord, hein, les consignes d'équipe, évidemment. Même moi, en pilotant, ça m'est arrivé de laisser passer un équipier pour favoriser un championnat, mais plutôt en fin de saison et quand il y a une vraie concurrence en face.
C'est ça.
Qui a un vrai danger. Mais là, il n'y en avait pas.
Non,
donc c'est vraiment quand je vous dis. Voilà, c'est...
Et alors, justement, je voudrais rebondir là-dessus. Il y a de nouveau, depuis quelques mois maintenant, un patron de la Scuderia qui est français, Fred Vasseur. Quel est votre regard sur la tâche qu'attend Fred Vasseur? Parce que, alors, celle de Jean Todt à l'époque, elle était déjà, c'était déjà du costaud. Là, Fred, il a un sacré boulot devant lui.
Oui, il y a un parallèle possible, hein, parce que mais ça a 30 ans d'écart. Hein, Jean est arrivé en 93, la Scuderia était au fond du trou, et il a quand même mis quelques années pour restructurer, pour remettre en selle, pour aller chercher Michael Schumacher et son premier cercle, hein, parce qu'il y avait quand même Ross, il y avait aussi l'ingénieur Rory Byrne, hein, qui a été le designer des Ferrari pendant des années, enfin pendant toutes les années Schumacher, et dont le poids est parfois un peu méconnu, mais qui était très très important. C'est l'Adrian Newey de l'époque, Rory Byrne. Et évidemment, ce n'est pas comparable parce qu'on ne peut pas comparer les époques et la F1. Mais bon, l'environnement compétitif et le statut singulier de Ferrari, ça n'a pas changé. Et donc Fred, il arrive 30 ans après Jean-Jean, et il a fait face à la même montagne, quelque part. Alors, Jean avait eu la confiance de Luca di Montezemolo pour... Il a vraiment une carte blanche. Il a failli lâcher prise une ou deux fois, hein, parce que je peux vous dire qu'en 96, 97, ça a été très, très tendu à certains moments, et la presse italienne se déchaînait, enfin bon. Donc, Fred Vasseur, heureusement, il est fait... Je ne vais pas dire du même bois que Jean Todt, parce qu'il est plus serein, je pense. Mais il a autant de compétences et autant de volonté. C'est un compétiteur, c'est un racer, comme on dit. Et il a son expérience qui est quand même considérable, même si ce n'est pas uniquement en F1, mais c'était le cas de Jean également. Et donc Fred, il faut lui laisser le temps, simplement, comme on a laissé le temps à Jean. Et je pense que si on laisse le temps à Fred, il va y arriver. Mais bon, moi j'ai beaucoup d'admiration et d'amitié pour Mattia Binotto, qui était quand même pas loin d'y arriver, quoi. Bon, alors on va dire, la voiture de cette année-ci, c'est le résultat de l'équipe mise en place par Binotto auparavant. Bon, c'est en partie vrai, mais Binotto avait quand même beaucoup de qualité pour faire de Ferrari, rendre à Ferrari ces heures de gloire. Il n'y est pas parvenu, et c'est quand même très pénible. Je trouve que la manière dont il a été écarté n'a pas été des plus élégantes. Mais bon, on n'est pas non plus au pays des bisounours.
Exactement.
On parlait du Grand Prix d'Autriche,
oui.
Au calendrier ce week-end. Mmh. On va revoir Laurent Jarmy. Qu'est-ce que ça vous fait comme impression, sachant qu'on arrive un an après quand même des débordements qui avaient été assez inquiétants en termes de comportement du côté des supporters néerlandais qui remplissent des tribunes
entières.
On sait pourquoi, c'est Max qui les fait venir et qui organise tout. Donc, tout est vraiment scénarisé au Red Bull Ring. Est-ce que vous les avez sentis un petit peu plus apaisés? Max Verstappen, Red Bull, c'est une écurie qui est souvent, en termes de communication, dans la transgression. On repousse les limites. Et là, ils avaient franchement dépassé les bornes, on va dire, des insultes, des comportements, des rires dans les tribunes quand Hamilton et Russell sortent le vendredi. C'était absolument lamentable, et d'autres choses encore plus graves dans les tribunes. Est-ce que vous sentez maintenant que ce phénomène aussi, qui est impressionnant, est en train de se réguler?
Espérons-le, parce que C'est vrai que le clan Verstappen, c'est vraiment un clan et c'est du business. Hein, il ne faut pas se leurrer. Les Hollandais, nous, on dit que ce sont des zakenmans, c'est-à-dire des hommes d'affaires. Voilà, ce sont des commerçants. Et le clan Verstappen, c'est-à-dire Raymond Vermeulen et son entourage, font beaucoup d'argent avec Max. C'est de bonne guerre. Hein, mais il y a énormément de produits dérivés, il y a énormément d'intérêts financiers et commerciaux en jeu. Et cette communauté des supporters néerlandais, évidemment, elle est partie prenante. Mais c'est vrai, ils sont très chauvins, les Hollandais. On le connaît en foot, hein, quand l'équipe nationale, la sélection néerlandaise joue au foot, on voit des tribunes oranges aussi, à l'époque de l'Ajax Amsterdam, enfin, les grandes aventures néerlandaises. Ils n'ont pas souvent l'occasion non plus d'avoir le premier rôle mondial comme ils l'ont avec Verstappen maintenant. Ils ne l'ont jamais eu en sport automobile, donc on peut le comprendre en se mettant à leur place. Mais ce sont aussi un peu, surtout dans le contexte Red Bull Ring. Bon, Red Bull, déjà, c'est quand même une entreprise, une écurie très clivante par sa manière de communiquer, par l'extrême, par tous les extrêmes. C'est ce qui fait sa réussite aussi. Mais bon, il y a parfois des dommages collatéraux. Et au Red Bull Ring, ils ne boivent pas que du Red Bull, les joyeux supporters néerlandais. Non, mais voilà, et ça en fait des hooligans, vraiment. Hein. Oui. C'est vraiment des comportements de hooligans.
Des poupées, c'est, ou des
c'est essentiellement
des
l'alcool, la chaleur, ouais, etc. Enfin, tout ça mêlé. Et l'esprit de foule, hein, le phénomène de masse, c'est pour ça que quand je vous parlais de nationalité, de nation, attention, parce qu'il n'y a rien de pire,
oui,
en réalité.
Oui, oui, on est bien d'accord.
Et dans le sport, malheureusement, souvent, c'est derrière le drapeau qu'on se réunit, et c'est pas toujours une bonne idée. Espérons que les leçons du Grand Prix d'Autriche de l'an dernier soient tirées, et par les organisateurs, par les systèmes de surveillance, mais aussi en interne,
oui,
chez Red Bull et chez Verstappen. Quoi.
Ça part de là. Si,
il y avait eu des débordements aussi un petit peu à Zandvoort, des idioties, on va dire, c'était moins grave quand même, mais
ouais,
on sentait que ça commence à poser problème, ils se sont un peu calmés, tant mieux.
Oui, mais depuis Zandvoort, on n'a pas eu de Grand Prix, disons, où,
oui,
où il y a 40 000 Néerlandais dans les tribunes. Quoi.
Ouais.
Donc, je pense qu'il faut pas laisser ce phénomène
s'installer.
Voilà, parce que sinon, ça va pourrir la situation. Et c'est dommage, parce qu'en F1, on n'a jamais eu ça.
Non, hein, c'est clair.
Mais les tifosis sont très enthousiastes, mais jamais ils jettent des cailloux sur le voisin. Quoi.
Mais c'est une tendance, et ça serait l'occasion aussi de sortir un petit peu du milieu de la Formule 1. C'est une tendance qu'on retrouve aussi en MotoGP, hein, pour tout vous dire, avec des spectateurs qui plaisantent et qui applaudissent quand un pilote tombe et parfois se blesse. C'est un autre débat, on en parlera. Je voudrais parler du futur, parce que on est très très attaché au foot du volant, et les amateurs de Formule 1, qu'ils soient français, belges, uruguayens ou que sais-je, sont tous fans quelque part du circuit de Spa. Est-ce que vous avez, vous, des informations un peu plus précises que nous sur l'avenir du Grand Prix de Belgique à Spa ? Est-ce qu'on va continuer à aller en Formule 1 à Spa, qui est l'un des deux, trois plus beaux circuits du monde ?
Alors, je précise que tous les circuits du calendrier 2023 sont déjà programmés pour 2024, sauf Spa-Francorchamps. Il y en a 23 donc, qui sont reconduits pour l'année prochaine. Stefano Domenicali a dit que la taille normale, c'est 24 Grands Prix. Est-ce que Spa a une chance d'être ce 24e Grand Prix ?
Alors, moi, je fais un fou du volant comme vous, mais je suis surtout fou de Spa-Francorchamps, parce qu'évidemment, c'est notre fierté nationale, c'est le plus beau circuit du monde. J'ai commis l'an dernier, ou il y a 2 ans maintenant, un ouvrage sur le centenaire du circuit de Spa, parce que quand même, un circuit centenaire, hein, il n'y en a pas beaucoup, et c'est le premier des circuits centenaires. Et puis, il a une histoire absolument extraordinaire, et il a la chance de s'être adapté aux époques. Et ça, c'est quand même le fruit de la clairvoyance de certains dirigeants sportifs ou politiques, hein, pas seulement politiques, mais enfin, il faut de l'argent public quand même à ce stade-là, parce que c'est un circuit qui est très long, dans un environnement, un relief très accidenté, donc ça coûte beaucoup plus cher qu'un circuit traditionnel ou un autodrome, disons, qui n'est pas naturel, qui est artificiel. Du coup, il faut une vraie mobilisation en Belgique pour maintenir l'outil et pour le développer, ce qui a été le cas dans la période récente et même depuis ces 20 dernières années. Moi j'étais aux responsabilités au RACB quand on a dû vraiment faire entrer Spa-Francorchamps dans le 21e siècle pour assurer sa pérennité. Sinon, c'était fini comme le Grand Nürburgring, comme d'autres circuits routiers de
parce
la belle
que là,
époque.
Parce que là, Stefano Domenicali, il en a remis une couche il y a quelques heures en parlant donc d'alternance entre les circuits. Est-ce que en filigrane, ça veut dire que il n'y aura pas Spa en 2024 et qu'on y retournera en 2025, on va dire un an sur deux, un an sur trois?
Alors, selon mes sources, qui valent ce qu'elles valent, mais enfin qui sont quand même proches du virage de la source. a priori, le contrat pour 2024, il est prêt. Il doit être signé, il doit être validé, mais il est prêt. Bon, il se fait que comme c'est de l'argent public, comme ça doit passer par... ça doit être validé par la région Wallonne, etc. Bon, ça prend toujours un tout petit peu plus de temps. C'est pas... La personne qui négocie le contrat n'est pas mandatée pour signer et pour s'engager financièrement. Voilà pourquoi ça prend un peu plus de temps. Mais ils ont été chez Formula One la semaine dernière, les gens de Spa. Et donc, d'après ce que je sais, pour 2024, c'est OK. À partir de 2025, l'option de l'alternance est sur la table. Mais ça concerne en réalité tous les Grands Prix européens, parce que le calendrier de 24 Grands Prix, comme Liberty Media l'imagine dorénavant, c'est par région. Donc il y a 8 Grands Prix en Europe, il y a 8 Grands Prix en zone Asie-Pacifique et il y a 8 Grands Prix dans les Amériques au pluriel. Et il n'est pas exclu quand même qu'il y ait un Grand Prix en Afrique dans un relativement moyen terme, même si la candidature de Kyalami est définitivement écartée pour des raisons aussi politiques là-bas. Heureusement pour Spa, parce que c'est vrai que le danger, c'était... c'était que Kyalami ne remplace pas. Bref, alors l'alternance, ça pourrait se faire, par exemple, avec le Grand Prix des Pays-Bas, hein, une sorte de Grand Prix du Benelux, un an sur deux, parce que le modèle économique de Zandvoort n'est pas brillant, malgré le succès populaire, évidemment, mais bon, l'endroit est beaucoup plus réduit, restreint que les forêts des Ardennes, et les dunes de la mer du Nord permettent moins d'exploiter l'événement comme on pourrait le faire. Donc voilà, c'est une option qui est sur la table. Ça peut concerner d'autres grands prix européens. Et puis bon, il faut quand même se rendre compte qu'il y a des grands pays européens, en l'occurrence la France, l'Allemagne, qui n'ont plus de grands prix.
Mais on n'a pas de circuit aussi beau que Spa.
Ça, c'est vrai. Ça, voilà, c'est vrai. Donc
c'est
un argument.
c'est un
argument et Stefano Domenicali, que je connais bien, n'est pas insensible à la valeur patrimoniale au passé historique sportif de Spa. Et d'ailleurs, ça attire évidemment tous les publics et tous les pilotes du monde. Et Spa tourne 250 jours par an, pas seulement pour la F1 évidemment, parce que tous les championnats internationaux y vont et que c'est vraiment devenu une entreprise florissante. Et le Grand Prix de Belgique en tant que tel est tout à fait rentable dorénavant, parce que même si c'est la région Wallonne qui doit financer une partie du prix du plateau, quand on voit les recettes fiscales, les taxes locales, mais surtout la TVA, qui elle tombe dans l'escarcelle du gouvernement fédéral, donc c'est un peu de la politique belge-belge. Hein, donc l'argent ne sort pas de la même caisse, mais enfin, l'argent rentre quand même. Et sur le plan local, ou même au sens large, hein, parce que les retombées économiques indirectes, elles vont jusqu'à Maastricht en Hollande, jusqu'à Aix-la-Chapelle en Allemagne, et même plus loin, jusqu'à Luxembourg. Et ça touche, voilà, ça touche toute une région au-delà des frontières, avec un vrai business, quoi, une réalité économique. Donc, ne pas avoir le Grand Prix, c'est vraiment se priver de ressources considérables. Donc, moi, je prêche dans ce sens-là auprès des politiciens de Wallon. Je le fais depuis longtemps. Il y a beaucoup de politiciens qui sont tout à fait conscients de la situation. Et les investissements qui ont été consentis récemment pour moderniser les infrastructures de Spa-Francorchamps, les nouvelles tribunes, mais aussi toute la notion de l'accueil du public, faire briller la mariée. Voilà, il y a 80 millions d'euros qui ont été investis, donc c'est considérable. Donc je ne peux pas imaginer une saison de Formule 1 sans Spa-Francorchamps. Mais voilà, ce sera peut-être un an sur deux dans le pire des cas.
On va terminer par une dernière question. On a parlé du circuit de Spa avec vous, Pierre Van Vliet. Est-ce que la relève côté pilote est assurée? On a parlé évidemment de Jackie X, Monsieur Le Mans. On a parlé de Thierry Boutsen. Est-ce que la relève... Il y a eu Jérôme D'Ambrosio aussi, il y a quelques années, qui est en train de se préparer à devenir peut-être le successeur de Toto Wolff chez Mercedes. Mais est-ce qu'il y a là, sur vos radars, un jeune pilote belge ou une jeune pilote belge pour faire sonner la Brabançonne de nouveau?
Alors bon, moi j'ai accompagné Jérôme D'Ambrosio depuis le karting, donc je connais très bien son parcours, parce que j'ai vraiment été impliqué avec à l'époque la filière Gravity. Et puis bon, c'est des carrières difficiles malgré tout, parce que si vous débarquez en F1 dans une équipe de fond de grille, se faire remarquer, c'est pas évident. Il fait une saison à peu près exemplaire. Il enterre Timo Glock, qui avait quand même fait des premières lignes et des podiums avec Toyota quelques mois auparavant. Et puis voilà, vous n'avez pas vraiment la chance de monter, parce que dans le contexte Lotus, Romain Grosjean, qui est un avion de chasse, hein, cela dit. Mais bon, ils avaient été équipiers en Formule Renault et même en GP2. Et voilà, il y avait match, quoi. Mais bon, il y avait par exemple le poids de Total, du pétrolier, qui était non négligeable. Et voilà, je ne dis pas que c'est pour ça que D'Ambrosio n'a pas percé en F1, mais il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en ligne de compte. Il a fait une belle carrière en Formule I par la suite. Et puis, il a cette clairvoyance aussi à un certain âge, c'est-à-dire pas très âgé, hein, il a 36 ans, 37 ans, de dire, voilà, il a raccroché déjà il y a un an ou deux pour être team principal en Formule I chez Venturi. Bon, maintenant, moi, je l'appelle Toto Junior, parce qu'effectivement, il a été pris sous la coupe de Toto Wolff, pour des tas de raisons aussi qui ne nous regardent pas, mais il est très motivé par ce challenge. Il est conscient que il est loin d'être à la hauteur d'un job pareil, et que de toute façon, je pense que la succession de Toto Wolff, il y aura plusieurs personnes, parce qu'il fait un peu beaucoup de choses, il a ses doigts dans tous les pots de confiture, Toto, et il restera actionnaire à hauteur de 30%, Toto Wolff, donc il sera toujours là. Mais de nouveau, le calendrier des 24 Grands Prix et les contraintes des déplacements permanents, il y a un moment où des gens comme Toto Wolff, ils sont même plus utiles ou plus efficaces en n'étant pas sur le terrain en permanence. Et pour ça, ils ont besoin de lieutenants qui puissent être des relais compétents à leur place. Et Jérôme pourrait être l'un d'eux. J'ai pas vraiment répondu à la question. Pour revenir au pilote belge, bon, ça reste un petit pays. C'est vrai que c'est un sport qui est quand même de plus en plus difficile à pratiquer, y compris en karting. Voilà, donc on a des jeunes pilotes, mais on n'a pas de pépites. Moi, je n'ai pas, voilà, dans mon radar, entre guillemets, je ne vois pas arriver le futur, même un Stoffel Vandoorne ou un Jérôme D'Ambrosio, j'en vois pas. En l'occurrence, en karting ou en F4, hein, puisque c'est à cet échelon-là qu'on peut éventuellement encore les repérer, même si... voilà. Alors bon, on a la chance en Belgique quand même d'avoir des très bons pilotes dans beaucoup de catégories différentes, y compris Thierry Neuville en rallye. Enfin bon, donc je veux dire, pour un petit pays, c'est quand même pas mal. Il y a quand même une culture du sport automobile. Et donc, je ne doute pas qu'on aura dans l'avenir, sans doute encore, un pilote en F1. Mais regardez, en France, vous avez des années de disette ou de traversée du désert où il n'y avait aucun pilote français, hein, pendant une dizaine d'années. Donc voilà, alors que la taille du pays et les moyens du pays sont pas vraiment comparables. Donc voilà, il n'y a pas de règles, c'est un cycle, mais qui n'est pas régulé, c'est pas une science exacte. Et donc il faut attendre le bon moment, et voilà.
Eh ben merci beaucoup, Pierre Van Vliet. On a passé une heure ensemble.
Merci à vous, oui, quand même.
en un claquement de doigts. On rappelle, hein, votre livre, Ma vie sur les circuits, chez Témoignage City. Allez-y, vous retrouverez comme ça ce tour du monde en 80 circuits, parce que nous, on donne la priorité,
la bonne version,
au titre que vous vouliez donner à votre ouvrage. C'était un régal. Merci d'avoir été avec nous. On va peut-être donner quand même les horaires mon cher Stéphane, du Grand Prix d'Autriche. Les premiers essais libres vendredi à partir de 13h30. La qualification dès vendredi après-midi, hein, puisque c'est un week-end sprint, à 17h. La qualification pour la course sprint samedi à midi. La course sprint à 16h30. Et puis le Grand Prix, lui, sera le départ sera donné à 15h ce dimanche. Encore une fois, merci, Pierre.
Nous, on sera encore sur le front le soir à Mid-Ohio, mon cher Gilles, hein, parce qu'il y a de l'IndyCar aussi ce week-end.
Parce que l'IndyCar se poursuit, évidemment, ça aussi, circuit à l'ancienne, hein, Mid-Ohio d'ailleurs. Oui.
Et moi, je commande toujours l'IndyCar, c'est un plaisir, et c'est un plaisir que je me fais en Belgique, hein, parce que c'est l'adrénaline du direct, enfin le bonheur d'être en cabine et de partager la passion.
Je connais bien ça. Je suis content de voir que ça passe pas au fil des années en vous écoutant.
Vous avez encore de belles années devant vous, je vous les souhaite. Merci en tout cas.
Merci beaucoup.
Merci Pierre.
Et ben voilà Stéphane. Et ben vous savez ce qu'on se dit à la fin des Fous du Volant. On se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, on coupe le contact.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.